Le pendu par les pieds, une enquête de l'inspecteur Gray, par Alfred Gragnon. Il y a des gens qui font profession de ne s'étonner de rien, et qui se plaisent à répéter quelques lieux communs, dans le genre « moi, qui en ai vu de toutes les couleurs ». Marie Lucas, bonne à tout faire chez le docteur Béraudet, était de cette sorte de gens. Cependant, quand ce matin-là, elle descendit vers 7 heures de sa chambre au 7e étage, jusqu'à l'appartement de son maître au 2e, et qu'après avoir préparé le petit déjeuner, elle pénétra dans la chambre du docteur. Le spectacle qui s'offrit à ses yeux la figea sur place, sous l'empire de la plus grande stupéfaction, pour la faire dégringoler presque aussitôt jusqu'à la loge des concierges, comme si les fauves étaient à ses trousses. À vrai dire, il y avait de quoi, et Marie Lucas, qu'elle n'avait peut-être à l'entendre vu bien d'autres, depuis un demi-siècle qu'elle était née, n'avait certainement jamais rien vu de semblable. En ouvrant la porte de la chambre dont les volets étaient clos, mais dont toutes les lumières étaient allumées, elle avait aperçu son maître qui pendait lamentablement la tête en bas le long d'un des doubles rideaux de la fenêtre. Dès que, tout en respirant du vinaigre, la bonne eut bégayé au concierge ce qu'elle venait de voir, le mari, gardien de la paix en retraite, monta jusque chez le docteur pour se convaincre que la domestique avait bien, ainsi qu'il l'avait immédiatement pensé, était victime d'une simple hallucination. D'ailleurs, ne prétendait-on pas au 7e que Madame Lucas était somnambule, et aussi qu'on l'entendait souvent, en pleine nuit, pousser des cris comme si on l'égorgeait. Marie Lucas ayant laissé la porte de l'appartement ouverte, le concierge entra, et connaissant les êtres, se dirigea vers la chambre à coucher. Bien que, là aussi, la porte fût ouverte, il frappa, par discrétion, à plusieurs reprises. Comme il ne recevait aucune réponse, il se décida à entrer, prêt à s'excuser de son intrusion. Il se rendit vite compte que la domestique n'avait fait que dire la stricte et tragique vérité. Quand il eut repris son sang-froid, l'habitude de son ancienne profession l'incita à faire des constatations précises, qui devaient être d'ailleurs, quelques instants après, celles du commissaire du quartier appelé par téléphone. Le docteur Béraudet était en pyjama de nuit. Les bras pendaient et les mains touchaient presque le tapis. Le reste du vêtement léger était replié sur la tête dont on n'apercevait qu'une mèche de cheveux bruns menaçant le sol comme un fer de lance. En haut, les pieds étaient ficelés par plusieurs épaisseurs d'un cordon de tirage jaune dont les bouts étaient fixés, solidement semblait-il, à l'un des pitons de soutien des lourds rideaux. Un siège était non loin, donnant l'impression qu'il avait servi d'escabeau à celui qui avait procédé à cette étrange pendaison. Exactement sous le pendu, une boîte d'allumettes, contenant et contenue, était aux 2/3 carbonisée et alentour, la marquette était quelque peu cramée. Le concierge ne douta pas qu'on eût voulu faire rôtir le corps du malheureux docteur, bien que semblable bûcher parut insuffisamment bien conçu pour atteindre le résultat désiré. Le lit était défait et la chambre en désordre, mais aucun tiroir, aucune armoire n'était ouvert, et il ne sembla pas au premier abord à l'ancien gardien de la paix qu'il lui vole concomitant. Là encore, la police et l'enquête devaient constater qu'en effet, absolument rien n'avait été dérobé au docteur, ni argent, ni bijoux, ni quelque autre objet de valeur. Quant au suicide, il était visiblement impossible de l'imaginer le moindre instant. Si ce que la presse appela l'énigme de la rue Cardinet fit grand bruit dans le public et intrigua la France entière, la manière dont, sans même quitter son bureau du quai des Orfèvres, Gray résolut le mystère, fit avouer le coupable et l'arrêter, est un des plus grands sujets d'admiration dont le célèbre inspecteur donna l'occasion à ses chefs et à ses collègues. C'étaient les deux inspecteurs principaux, Poussin et Laurent, qui avaient été chargés de l'enquête par le commissaire aux délégations judiciaires. Or, malgré la vaine prétention du premier, son goût pour les méthodes établies, son manque total d'imagination, son impuissance à établir des déductions d'ordre psychologique et la manière un peu trop entêtée dans les idées préconçues du second, ces deux collaborateurs de la police étaient cependant accoutumés aux recherches criminelles, ils avaient une longue expérience et un sens aigu de leurs devoirs professionnels. En l'occurrence, toutefois, au bout de 3 semaines, ils n'étaient guère plus avancés qu'au premier jour. Leur insuccès les exaspérait, toutes les pistes suivies les ayant amenés irrémédiablement à une impasse. Et ce fut Poussin qui, malgré son aversion jalouse pour Gray, fut le premier, oh non sans avoir longtemps hésité, a proposé à son collègue d'exposer l'affaire à ce sorcier de Grey. Comme ça, ajouta-t-il, sans avoir l'air. En face du sorcier, cependant, le gros inspecteur principal, devant la bienveillante ironie du regard, oublia qu'il s'était promis de prendre conseil de façon détachée. Et sans même que Grey l'en eût prié, il exposa l'affaire dans tous ses détails, aidant même sa mémoire des précisions qu'il avait soigneusement relatées à chaque pas de l'enquête dans un de ces inséparables et volumineux carnets de Moleskine noir que toute la police judiciaire connaissait bien. Il relata d'abord la découverte de Marie Lucas et les constatations du concierge et peu après de la police, puis il poursuivit. Aucun voile n'ayant été révélé, le mobile du crime n'apparaissait pas. Le docteur Béraudet, la victime, était un célibataire d'une quarantaine d'années, menant une vie extrêmement régulière et laborieuse. Il paraît qu'il a fait des études très sérieuses. Il a été interne des hôpitaux, puis s'est installé rue Cardinet comme spécialiste des maladies nerveuses. À part la famille de sa sœur qui habite rue de Villiers et deux ou trois de ses confrères, il ne fréquentait personne. Il sortait peu le soir, sauf sur appel d'un malade, et les concierges le représentaient comme un homme très doux, très aimable et tout à fait sérieux. Quel était à peu près son poids ? Interrompit Grey. La question inopinée interloqua Poussin. Il finit par répondre « Oh, il n'était pas grand et assez mince, il pouvait peser dans les 70 kilos. Merci, continuez. » Le médecin légiste devait constater que le docteur avait été tué vers 1 heure du matin par la piqûre hypodermique d'un poison très violent dont l'effet mortel est instantané. « Quel poison ?» demanda de nouveau Grey. Pour le coup, l'inspecteur principal dut avoir recours à son carnet noir. L'analyse a déterminé que c'était un composé de strychnine, de nicotine et de curare. « Simplement, » s'étonnait Grey. En outre, on a retrouvé sur le lit un tampon d'ouate, un flacon de chloroforme et enfin la seringue dont on s'est servi. Des empreintes ? Oui, mais ce sont uniquement celles de la victime. Pour moi, on a voulu faire croire au suicide, mais non seulement la moindre possibilité de se prendre par les pieds un piton de rideau ne peut être un instant envisagée, mais encore, le médecin légiste affirme que le docteur Béraudet était mort avant la pendaison. Quelle piste avez-vous suivi ? Ce fut au tour de l'inspecteur Laurent de répondre. Poussin, dit-il, avait dans l'idée que le crime avait été commis par quelqu'un d'étranger à la maison. J'avoue que le témoignage des concierges est vague et contradictoire. Le mari assure que personne n'a sonné à la porte de l'immeuble après le docteur Béraudet lui-même. Le médecin est rentré vers 10h30 du soir. Au contraire, il semble bien à la femme, sans qu'elle puisse formellement l'assurer, qu'elle a tiré le cordon plus tard dans la nuit. Elle ne se souvient d'ailleurs plus du nom qu'on lui a lancé au passage. « Qu'est-ce que cela prouve ?» grogna Poussin. « Simplement que la femme a le sommeil moins lourd que son mari. » Son collègue ne fit pas état de l'interruption et continua. D'autre part, la domestique, Marie Lucas, affirme que la porte-palière était fermée au verrou, car il se souvient très bien que dans sa fuite éperdue, après la découverte de la pendaison, elle a eu, dans sa précipitation, quelques difficultés à ouvrir cette porte pour gagner l'escalier. Le meurtrier n'a pas pénétré par cette porte dans l'appartement, assura pensivement Grey, comme si déjà il était sûr du fait. C'est ce que j'ai pensé, dit précipitamment Laurent. Il fallait donc qu'il fût entré par une fenêtre ou par la porte donnant sur l'escalier de service. Poussin eut un tout sautement narquois avant de dire « C'est parfait. » Mais la femme Marie Dumas affirme que la porte de service était parfaitement fermée quand elle est descendue vers 7 heures, qu'il n'y a qu'une clé à cette porte, que cette clé ne la quitte jamais et que la serrure était encore fermée au double tour qu'elle avait donné la veille en montant se coucher. Quant aux fenêtres qui sont au deuxième étage de l'immeuble, ne l'oublions pas, soit à environ 9 mètres au-dessus du sol, le même témoin assure qu'elles étaient parfaitement fermées et qu'elle en avait tiré toutes les persiennes la veille encore avant l'heure du dîner. Seule, elle avait laissé la fenêtre de la cuisine entrouverte. Or, cette fenêtre donne sur la courette intérieure dont les murs n'ont aucune corniche et qu'on ne peut atteindre par conséquent qu'avec une échelle extrêmement encombrante. Laurent, un peu gêné, se gratta légèrement le nez et avoua. Évidemment, il n'y a aucune trace d'effraction, ni aucune trace de passage d'un homme par une des entrées, quelle qu'elle soit. Toutefois, il y a eu meurtre, et il faut bien que l'assassin soit entré d'une façon quelconque dans l'appartement et en soit ressorti. D'ailleurs, si l'assassin est venu de l'extérieur, comme vous l'imaginez, il a eu encore davantage de difficultés que si, comme je le crois, il habite la maison. Ce fut au tour de Poussin de tirer rageusement sur la pointe de sa grosse moustache. « Aussi, poursuivit son collègue, j'ai dirigé mon enquête sur les habitants de l'immeuble. Ils ne sont d'ailleurs pas nombreux. Il n'y a qu'un locataire par étage. Encore, au moment du meurtre, celui du premier était-il sur la Côte d'Azur et celui du troisième dans une propriété de campagne qu'il possède en Normandie. C'est dire que les appartements au-dessous et au-dessus de celui du docteur Béraudet sont inoccupés et que nous n'avons pas pu, de ce fait, recueillir des témoignages qui auraient pu être utiles. Ces locataires auraient sans doute pu entendre des bruits, des appels, ajouter quelques faits nouveaux aux constatations. Il a bien fallu nous en passer. Le rez-de-chaussée est une vaste boutique louée à l'antiquaire qui lui-même habite le cinquième étage de la maison. Il ne reste donc comme habitant, outre ce commerçant, que les locataires du quatrième, du sixième étage, les concierges et les domestiques. Prenons-les, l'un après l'autre, si vous le voulez bien, en partant du bas. Les concierges. 50 et 43 ans. Lui, médaillé militaire, gardien de la paix en retraite, brave homme, tout simple, tout rond, serviable. Elle, revêche, sèche, un peu butée. Au demeurant, ils jouissent tous deux d'une excellente réputation dans le quartier, mais ils ont un fils de 20 ans passé, soi-disant artiste, qui, bien entendu, ne vit pas avec eux et qui, au contraire des siens, est représenté comme un assez vilain garnement, ayant de tout temps mangé les économies de ses parents. Il est venu les voir 3 jours avant le meurtre et la concierge voisine a entendu les échos d'une discussion violente. Interrogés à ce sujet, le père et la mère ont simplement répondu qu'il n'avait été question, entre leur garçon et eux, que d'une histoire d'argent, comme toujours. Le locataire du cinquième étage s'appelle Anchel. C'est un autre retraité, un bonhomme d'une 60aine d'années au moins, qui ne parle que des navigations qu'il a faites pour le compte de la compagnie transatlantique. Un vrai brave loup de mer, mais un loup de mer retombant un peu en enfance. La domestique est une vieille anamite couchant dans l'appartement. Elle parle à peine le français et a l'air complètement hébétée. Ni l'un ni l'autre ne savent rien sur le docteur. Monsieur Anchel m'a bargouiné en riant quelque chose comme « Un jeune médecin de plus ou de moins, ça n'a pas d'importance. » Mais je vous le répète, son vieux crâne me paraît avoir trop chauffé au soleil équatorial. Le locataire du cinquième est, comme nous le savons, l'antiquaire du rez-de-chaussée. Troisième célibataire. C'est un petit bonhomme de 40 ans, hépatique et désagréable. Celui-là détestait le docteur Béraudet. Il ne l'a pas caché. Il prétend qu'il en a reçu des soins qui n'ont fait qu'aggraver sa maladie de foie, que c'était un âne, un charlatan et un voleur. Il dit ne rien savoir sur le crime. Il a une bonne assez jeune qui couche au 7e étage mais qui n'est à son service que depuis 15 jours. D'ailleurs, elle cherche déjà une autre place car, pour reprendre les termes dont elle s'est servie, son patron est un drôle de bonhomme qui a une tête d'assassin. Enfin, nous trouvons au 6e un certain comte de Buguet et la comtesse, sa femme. Elle est très jeune, lui, répare comme il peut les outrages des années. Je crois qu'ils vivent de divers expédients, chacun de leur côté. Elle est toujours hors de chez elle, en visite ou en course, et lui passe sa vie dans des cercles de troisième ordre, où, m'a dit la brigade des jeux, il est animateur de parties aux gages de la maison. Ils ont 2 domestiques, cuisinière et valet de chambre, à qui, d'ailleurs, ils doivent plusieurs mois de gages. Ces malheureux ne restent en cette place que pour courir après leur argent et la réalisation des promesses qui ne sont jamais tenues. L'inspecteur Laurent s'arrêta un instant pour reprendre. Je vous avoue que le fils du concierge a d'abord attiré mon attention. Il aurait bien fallu pourtant qu'il vînt de l'extérieur, celui-là, objecta Poussin, sarcastique, à moins de croire à la complicité de ses parents. Complicité possible, rétorqua sèchement Laurent, et expliquant peut-être les divergences de souvenirs entre le concierge et sa femme relativement à la rentrée nocturne d'un inconnu. Cette culpabilité offrait la possibilité à l'assassin, habitué de la maison, d'avoir la clé de service du 2e étage. Mais j'ai réfléchi qu'il n'y a pas eu vol. Le fils besogneux du concierge aurait emporté tout ce qui avait quelque valeur. Je me suis rabattu ensuite sur l'antiquaire, non en raison de l'opinion de la domestique sur la tête de son patron, mais sur les motifs d'aversion violente qu'il extériorise sans aucune gêne contre la malheureuse victime. L'homme est un malade, un violent et, Dieu sait, ce qui peut lui avoir passé par la tête une nuit où son foie le faisait plus souffrir qu'une autre. Celui-là, en tout cas, est riche. Il n'aurait rien volé. La seule vengeance pourrait être le mobile de son action criminelle. Mais comment s'est-il procuré la clé de la porte de service et surtout comment lui faire avouer son crime sans aucune empreinte, sans autre présomption que ses propres dires et que de vagues intuitions de ma part? Finalement, coupa Poussin, impatient et s'adressant à Gray, il ne restait dans la maison que le vieux navigateur gâteux et que les nobles du sixième, c'est-à-dire rien, néant, zéro. Gray regarda tour à tour ses interlocuteurs qui semblaient n'avoir plus rien à dire. Poussin, cependant, essaya de se faire valoir. « Moi, j'ai tout de suite compris qu'il n'y avait rien à espérer trouver dans la maison, ni criminel, ni renseignement. Aussi, c'est vers les amis ou les anciens amis du docteur Béraudet que j'ai dirigé mon enquête. J'étais sûr, et je le suis encore, que seul pourrait m'indiquer une personne quelconque avec qui la victime a certainement eu une querelle terriblement violente ou une discussion très grave d'intérêt ou de sentiment, et qui aura longuement perpétré sa vengeance et ce mode d'assassinat où la rage, la cruauté, se poursuivent même après la mort de l'adversaire détesté. » De nouveau, Gray regarda Poussin, et une certaine approbation se lut dans ses yeux. Il se leva et dit à ses collègues « J'ai l'impression que si l'un comme l'autre vous avez eu des raisons très valables de mener votre enquête comme vous l'avez fait, vous n'êtes ni l'un ni l'autre, du moins je le crois, partie des points essentiels qu'il convenait de retenir. Venez donc me prendre en mon domicile particulier. Vous savez où j'habite. Demain, vers 3 heures. J'espère vous y présenter la personne qui a tué le docteur Béraudet. » « Cette personne ? » s'ébahit Poussin. « Vous la connaissez ? Vous allez la faire venir chez vous ? » ?»«
Oui, »
assura tranquillement Gray. « Dès que vous serez sorti, je vais donner un coup de téléphone à son sujet. Et si la réponse est bien conforme à celle que je prévois, je lui enverrai une lettre qui ne peut manquer de l'attirer chez moi. » Les deux inspecteurs auraient été tentés d'accuser Gray de prétention s'ils ne les avaient habitués à de véritables coups de théâtre de ce genre. Ils essayèrent bien de connaître plus à fond la pensée de leur collègue, mais celui-ci les pria aimablement mais fermement d'attendre jusqu'au lendemain. Le lendemain, à l'heure dite, Poussin et Laurent, encore un peu sceptiques malgré tout, se présentaient au domicile de Gray. Ce fut la vieille bonne du policier, sorte de bourrue bienfaisante, qui leur ouvrit la porte, et les prévint aussitôt que son maître ayant une visite dans sa petite bibliothèque, il les priait de bien vouloir l'attendre silencieusement dans le living room voisin. Dès qu'ils furent entrés dans cette pièce, les deux policiers se rendirent compte que la porte de communication avec la pièce voisine était entrouverte, et qu'ils entendaient parfaitement la conversation qui se tenait entre leur hôte et la personne qui se trouvait avec lui. Ils écoutèrent. « Oui, » expliquait Gray, « comme je vous l'ai exposé dans ma lettre confidentielle, je vais fonder une ligne pour la suppression de ces jeunes blancs-becs sans expérience qui se permettent de faire de la médecine et qui, à peine leur diplôme en poche, osent soigner les gens et prendre leur argent. « Bravo !» s'écria le visiteur inconnu. « Aussi, » continuait Gray, « comme je sais que vous êtes un ancien médecin, à qui la carrière a donné à vous au moins la connaissance de toutes les maladies, j'ai pensé à vous faire nommer président de cette ligue. « J'accepte, » dit encore la voix en s'enflant un peu. Dans la pièce où ils attendaient, Poussin et Laurent se regardèrent. Que signifiait ce galimatia ? Maigret continuait à côté. Auparavant, cependant, il conviendrait que vous me disiez si vous avez fait quelque action d'éclat, dans le sens que se propose la Ligue et, me permettant de vous imposer comme président à vos anciens confrères ayant la même haine que vous. Ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, grondait l'autre. J'ai fait 8 ou 10 fois le tour du monde comme docteur de bord pour la transatlantique. J'ai été médecin en Chine, aux Indes, dans les îles de la Sonde, au Pérou, partout. Moi, j'ai soigné avec génie, oui, avec génie, toutes les maladies. Et quelles merveilleuses expériences j'ai faites sur des blancs, des jaunes, des noirs, des rouges. J'ai vu mourir plus de 1000 personnes qui croyaient que je les soignais. Expérience, vous comprenez, expérience. Mais c'est à cela que je dois toute ma véritable science. Ce qu'il y a d'amusant, c'est que des gens m'ont voulu faire passer pour fou. La compagnie m'a renvoyé sous prétexte que j'étais malade. Malade! Et pour me remplacer par qui? Par un véritable gamin. Un interne des hôpitaux, je vous demande un peu. Comme si on apprenait la médecine dans des hôpitaux à soigner toujours des petites maladies de rien du tout. Parlez-moi de la peste, de la maladie du sommeil, de la lèpre, du choléra, de la fièvre jaune. Ah, la fièvre jaune, je l'ai eue, monsieur, quelle belle maladie. C'est un terne qui m'a remplacé. Il ressemblait à ce docteur Béraudet, vous savez, le pendu de ma maison. Oui, il lui ressemblait à s'y méprendre. D'ailleurs, tous dans le même sac, tous. On entendit un formidable éclat de rire qui semblait ponctuer diaboliquement un discours décousu. Gray reprenait vite. « C'est parfait, docteur, parfait. Mais si par hasard vous aviez à votre actif un acte précis, la suppression, par exemple, d'un de ces ridicules médecins parisiens, cette action d'éclat faciliterait votre nomination de président. » Il y eut une seconde ou deux de silence, puis l'interlocuteur de Gray se décida à reprendre à voix plus basse. « Est-ce que cela ?» « Eh bien, sachez-le, c'est moi qui ai supprimé ce Béraudet. Oui, moi. Et jamais ces imbéciles de policiers ne pourront le prouver. Moi seul, c'est la chose. Oh, j'ai bien combiné mon affaire. Un peu d'opium à ma domestique anamite. Et vers minuit, j'ai fixé une corde à nœud dans ma cuisine. Et bien fixé, vous savez. Je n'ai pas été à l'école de médecine navale et navigué plus de 20 ans sans connaître et avoir pratiqué tous les trucs de marin. J'ai 64 ans. Mais je suis aussi valide qu'à 30, sans en avoir l'air. Avec ma corde, je me suis laissé glisser dans la courette jusqu'à la fenêtre de la cuisine de cette espèce de docteur, 6 mètres seulement au-dessous de la mienne. Je savais bien que la cuisinière du nommé Béraudet laissait la nuit la fenêtre de la cuisine ouverte. J'ai pénétré ainsi au second. J'avais mis des gants d'opération et des pantoufles de feutre pour ne faire aucune marque, ne laisser aucune trace. Une fois dans la place, je me suis dirigé doucement vers la chambre de ce soi-disant médecin, c'est la même que la mienne. J'allumai le commutateur et avant que Béraudet se soit même réveillé, je l'ai gentiment chloroformé, doucement, silencieusement, presque maternellement, et tout de suite, la bonne piqûre. Oh, ça n'a pas été long. Quand j'ai vu qu'il était mort, comme ça, sans souffrir, vous comprenez bien que j'ai eu des regrets. Alors je l'ai pendu par les pieds, puis j'ai regagné ma corde. Je suis regrimpé chez moi. Et j'ai fait un grand feu dans mon fourneau de cuisine pour brûler cette corde. Vous pourrez dire ça aux membres de la Ligue. Veuillez m'attendre une minute, dit Gray, calmement. Deux de ces messieurs doivent être arrivés. Je vais vous recommander à eux. Gray parut aussitôt et referma la porte. À voix basse, il parla. Oui, un fou. Ça ne pouvait être qu'un fou. La boîte d'allumettes, la ridicule et inutile pendaison, un colonial, le curare indien, probablement un marin. Il n'avait pu pénétrer que par la fenêtre de la cuisine, en descendant à l'aide d'une corde, d'une fenêtre supérieure, et enfin un médecin. Le chloroforme, la strychnine, la piqûre. La transatlantique, au téléphone, a confirmé mes premières suppositions. Anchel est bien un ancien médecin de la marine renvoyé pour troubles mentaux. Mais, comme je le pensais, cet ancien homme de mer est agile et solide. Rappelez-vous qu'il a pendu seul un corps de 70 kilos. Voilà ce qu'il convient de faire. Et rapidement, il dicta à ses collègues les opérations qui devaient suivre. Une heure après, le meurtrier, solidement ligoté, attendait à l'infirmerie spéciale du dépôt un transfert qui ne pouvait tarder vers un asile d'aliénés. « Ce Gray, c'est vraiment un sorcier, » disait Laurent à Poussin. « Oh, dans le fond, ce n'était pas bien malin, » rétorque avec un mépris ingrat le gros inspecteur principal. Ainsi s'achève, le pendu par les pieds, une enquête de l'inspecteur Gray par Alfred Gragnon.